Bonjour et bienvenue dans le Labomatique, l'émission Science et Recherche de Radio Campus Rennes. Si vous vivez du côté de Brest ou de Vannes, vous avez peut-être été témoin de petits tremblements de terre à l'automne dernier. Pas de panique, cette activité sismique est normale et reste de faible envergure. Elle est par contre beaucoup moins en d'autres points du globe, pouvant causer de nombreux dégâts. Les séismes font en effet partie des processus qui modifient la surface de notre Terre. Ces modifications intéressent tout particulièrement une science, la géomorphologie. Philippe Sterre est géomorphologue au sein du laboratoire Géosciences à Rennes 1 et nous éclaire sur cette discipline ainsi que sur les tremblements de terre en Bretagne. Mais commençons par savoir au final, qu'est-ce que c'est la géomorphologie ?
Alors la géomorphologie en fait ça veut dire tout simplement l'étude de la surface de la Terre et donc en fait c'est une étude qui essaye de voir comment les reliefs à la surface de la Terre se forment, comment les chaînes de montagnes se forment, comment aussi par exemple des rivières ou des glaciers peuvent éroder ou modifier cette surface terrestre. Et donc c'est l'ensemble de ces études en fait, qui vont se retrouver dans cette thématique qui est la géomorphologie.
Et à quoi peuvent servir ces études ?
En tant que telles, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui modèle la surface de la Terre. Mais ensuite, il y a des implications à cette étude. Enfin, par exemple, l'étude de la surface peut renseigner sur éventuellement l'activité sismique, peut renseigner sur potentiellement le changement climatique, peut renseigner sur d'autres... processus, d'autres, comment on appelle ça, des forçages externes, comme le climat ou la tectonique, sur... quelles sont les conséquences de ces forçages sur la surface de la Terre, en fait.
En parlant d'activité sismique, on a répertorié différents séismes en Bretagne en 2012, à l'automne.
En 2013,
notamment,
ouais.
En 2013, oui, plutôt. À l'automne, notamment autour de Brest et de Vannes. Pouvez-vous nous en dire quelques mots là-dessus ?
Oui, alors en fait, il y a eu trois événements sismiques modérés, en fait. Il y en a eu deux près de Brest et un peu plus important à Vannes, qui était de magnitude 4.7, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont tous eu lieu à l'automne. Et donc, c'était une activité un peu plus intense que d'habitude. Bon, alors, celui de Vannes, notamment, il a un peu marqué les esprits parce qu'il a eu lieu près de la ville. Donc, les gens qui habitent Vannes, en fait, ont entendu un bruit assez sourd au moment du séisme. Ça a un peu tremblé. Donc, ça a un peu choqué les gens qui n'étaient pas forcément habitués à cette activité sismique. Mais après, en tant que séisme, ils n'ont rien de particulièrement exceptionnel. Hein. C'était des petits séismes, magnitude 4.7, 4.5. Le plus petit de ces événements était magnitude 3.9. C'est des événements très modérés qu'on ressent un peu mais pas beaucoup plus qui ont lieu très souvent sur Terre, des séismes de cette magnitude il y en a plus que tous les jours en fait, donc c'est quelque chose de relativement normal en quelque sorte.
Et comment expliquer la présence de séismes en Bretagne ?
Alors en Bretagne en fait il y a ce qu'on appelle des failles, donc c'est-à-dire des discontinuités mécaniques en quelque sorte dans la roche. Et ces failles en fait il y en a deux, notamment une qui s'appelle le cisaillement sud-armoricain qui passe par Vannes et qui va jusqu'à Nantes, et le cisaillement nord-armoricain qui passe par Brest. Et ces deux failles, en fait, sont des failles qui sont héritées d'une ancienne chaîne de montagnes qui a eu lieu il y a à peu près 300-400 millions d'années. Et cette chaîne de montagnes, elle a été complètement érodée et détruite, mais persistent ces deux failles. Et ces deux failles, en fait, sont toujours capables de créer, en quelque sorte, ou de former des séismes, si elles sont sollicitées par des mouvements un peu plus au loin des plaques tectoniques.
Comment se forment des séismes, en fait ?
Alors, les séismes, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des mouvements qui ont lieu de part et d'autre de cette faille, et cette faille, elle va être capable de ne pas bouger pendant un petit moment, comme un peu un élastique sur lequel on pousse ou on tire. Donc, on va pouvoir accumuler de l'énergie sur cette faille, on va pouvoir tirer sur cet élastique, et à un moment, l'élastique ne va plus pouvoir résister, et paf, il va casser. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ont lieu les séismes sur ces failles-là. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu... ce qu'on appelle des contraintes, c'est-à-dire une force qui s'est accumulée sur ce plan de faille pendant suffisamment longtemps, et ensuite elle a été relâchée.
Vous parliez de magnitude, à quoi ça correspond en fait ces magnitudes ?
Alors la magnitude sismique, c'est différent de ce qu'on appelle l'échelle d'intensité. La magnitude, ça caractérise en fait l'énergie d'un séisme, c'est-à-dire que chaque séisme peut libérer une énergie lorsque la faille rompt en fait. C'est très différent de l'échelle d'intensité. L'échelle d'intensité, c'est une échelle de ressenti. Donc, par exemple, s'il y a un séisme à Vannes et que vous vous situez à Brest ou à Quimper ou à Nantes, vous n'allez pas ressentir de la même manière ce séisme-là, donc vous n'allez pas mettre la même intensité sur ce séisme. Alors, pour l'échelle de magnitude, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une échelle qui est en base logarithmique, enfin, peu importe. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on augmente de 1 la magnitude d'un séisme, on multiplie par 30 l'énergie qui est relâchée par un séisme. Donc, par exemple, un séisme de magnitude 5 par rapport à un séisme de magnitude 4, c'est 30 fois plus énergétique. Et pour donner un ordre de grandeur de quelle est l'énergie qui est relâchée, ce qu'il faut à peu près savoir, c'est qu'une bombe nucléaire, on est de l'ordre de 6 en termes de magnitude. Donc les événements sismiques qui ont lieu en Bretagne étaient à peu près, on va dire, 30 à 900 fois moins énergétiques qu'une bombe nucléaire, à peu près, hein, pour comparer.
Oui, donc la magnitude ne renseigne pas forcément sur les dégâts potentiels que peut faire un séisme.
Non, non, effectivement, parce que si votre séisme a lieu proche de la surface, ou si vous avez à proximité d'une faille, une ville qui est pas du tout parée pour des séismes, vous allez pouvoir avoir des dégâts très très importants, qui sont sans relation forcément avec la magnitude du séisme. Donc il y a d'autres facteurs, surtout la profondeur, qui jouent beaucoup sur, les conséquences d'un séisme et leur destruction.
Et vous, comment étudiez-vous les séismes ?
Alors, de plusieurs manières. Hein, plus largement que moi, en fait, en sciences de la Terre, on étudie les séismes déjà. Il y a notamment ce qu'on appelle les sismologues. Donc, c'est des gens qui vont regarder à travers des sismographes où ont lieu les séismes, à quelle profondeur, quels sont leurs mécanismes, et ainsi de suite. Ensuite, on peut essayer de remonter un peu plus dans le temps, parce que le problème de cette sismologie, c'est qu'elle est limitée en termes d'échelle de temps à l'échelle d'observation humaine, hein. C'est-à-dire depuis qu'on a installé des sismographes, donc en gros une cinquantaine d'années. Mais on peut remonter plus loin dans le temps, notamment à travers la géomorphologie, parce que la géomorphologie, notamment la surface de la Terre, elle est capable d'enregistrer des déformations qui ont eu lieu bien en amont de ces 50 ans. Donc, par exemple, plusieurs milliers d'années en arrière, même plusieurs millions d'années en arrière. Donc, c'est une vraie, quelque sorte, archive ou bibliothèque des déformations passées, cette surface de la Terre. Et donc, vraiment, la géomorphologie peut renseigner sur où ont lieu ces séismes et quelles sont leurs conséquences. Par exemple, si on prend le cas de la Bretagne, le cisaillement sud-armoricain, notamment à côté de Vannes, hein, il se repère très très bien, par exemple, sur des images aériennes ou sur Google Earth, tout simplement. Hein. Donc si vous allez zoomer sur cette région-là de la Terre, vous allez voir en fait qu'il y a à certains endroits une espèce de trace en surface où on a un saut topographique, hein, donc une partie qui est plus haute de l'autre, de part et d'autre de cette faille-là. Et ce saut topographique, il est dû notamment au déplacement, au mouvement qu'il y a eu cette faille, qui sont probablement la conséquence de séismes passés. Donc en géomorphologie, on peut avoir une idée de si ces failles sont actives ou non. Donc par exemple, le cisaillement sud-armoricain, on sait que c'est une faille active. Après, la question qu'on peut se poser, notamment en revenant au cas breton, c'est quelle est la magnitude potentielle d'un futur gros séisme breton. Enfin gros, à prendre
entre pincettes. Oui, il pourrait y avoir des séismes importants.
Il pourrait y avoir des séismes potentiellement.
Dans l'histoire ?
Alors on ne sait pas. ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été peu étudié, hein, donc on a peu de recul sur la question. Alors la magnitude d'un séisme, pour essayer de comprendre quelle est la magnitude potentielle, elle dépend notamment de la taille de la faille. Donc c'est égal à la taille de la faille ou sa surface, fois notamment le déplacement qu'il y a pendant le séisme. Et le cisaillement sud-armoricain, c'est une faille qui est relativement grande en fait, qui est de l'ordre de, on pense, 500 km de long. Alors on ne sait pas si c'est une seule faille ou si c'est plusieurs failles qui sont les unes à côté des autres, mais si on fait l'hypothèse que c'est qu'une seule faille, ça veut pouvoir dire que potentiellement on peut avoir des séismes de magnitude éventuellement égal à 6 ou même peut-être 7, on ne sait pas vraiment. Donc il y a un risque qui n'est pas complètement négligeable.
Est-ce que les Bretons doivent s'alarmer sur la potentialité de séisme en Bretagne ?
Alors s'alarmer, non. Mais par contre, les Bretons en tant que tels, non. Mais j'invite plutôt les collectivités, que ce soit la région, les mairies et même l'État éventuellement à re-réfléchir un peu à ce risque sismique en Bretagne, parce que je pense qu'il n'est pas extrêmement bien évalué actuellement. Et donc là, ça vaudrait le coup, alors je parle de manière un peu non partiale, mais ça vaudrait le coup éventuellement d'essayer de refinancer des projets de recherche pour mieux évaluer ce risque sismique en Bretagne, en fait.
Et oui, vous parliez des échelles d'intensité pour les dégâts, ça se mesure comment là ? C'est juste quantitatif ou juste à l'observation, en fait ?
Alors en fait, cette échelle d'intensité, elle se mesure grâce aux témoignages en fait, des gens, hein, tout simplement. Donc en fait, il y a des gens qui habitent à différents endroits qui vont dire « Ah bah voilà, chez moi, j'ai vu par exemple que de la vaisselle avait été cassée, ou j'ai été réveillé pendant la nuit, ou mon mur s'est effondré. » Et donc en fait, il y a des sites internet qui permettent justement de recenser tous ces témoignages. Hein. notamment le site du réseau sismique, sismologique français, je ne connais plus très bien son nom, je crois que ça s'appelle le RENAS ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, on peut témoigner sur ce site web-là. Et donc, ensuite, il y a des scientifiques qui regardent tous ces témoignages, qui font une espèce de base de données à partir de ça, et qui voient quels ont été les ressentis. Ils traduisent ces ressentis en termes d'intensité. Donc, après, on a des cartes d'intensité pour chaque événement sismique. Si vous avez un séisme qui a lieu dans un désert où il y a strictement rien, il y aura zéro intensité parce qu'il y aura eu zéro ressenti. Alors que si vous avez un séisme, par exemple, sous la ville de San Francisco, comme ça peut peut-être arriver... Dans les dizaines d'années à venir, ben, là, vous allez avoir énormément de témoignages.
La faille de San Andreas, justement, au niveau de San Francisco, elle inquiète les géologues ?
Oui, ben, notamment aux États-Unis. Il y a pas mal de projets de recherche qui portent sur l'étude, justement, de cette faille-là. Ils étudient notamment... Donc, on sait qu'il y a un mouvement tectonique qui a lieu sur cette faille de San Andreas. Et on sait qu'il y a eu des séismes dans le passé, donc la question c'est quand est-ce que va avoir lieu le prochain séisme, quelle va être sa magnitude, et quels vont être les dégâts potentiels. Donc San Francisco, hein, toutes les villes qui sont situées le long de cette faille-là, se sont préparées à ce séisme-là, donc il y a eu beaucoup de constructions parasismiques, et il y a eu aussi beaucoup d'études pour mieux analyser ce risque sismologique. Et notamment, il y a une densité de sismomètres, une densité de GPS qu'on utilise en géophysique qui est la plus importante au monde sur cette faille-là. Donc c'est vraiment très très bien étudié en fait.
Comment un bâtiment peut être parasismique ?
Alors il y a plusieurs méthodes en fait, plusieurs techniques en quelque sorte pour essayer de faire résister un bâtiment à des séismes. Donc souvent en fait ce qui fait qu'un bâtiment va être en danger par un séisme, c'est le fait qu'il va casser pendant les vibrations. Et qu'est-ce qui fait qu'il va casser ? C'est qu'en fait il est moins élastique que ce qu'il devrait. Par exemple, si vous avez une maison en bois ou une maison en béton, en fait, la maison en bois va plus résister au séisme que la maison en béton, parce qu'elle est simplement plus élastique. C'est plus difficile de faire casser du bois que de faire casser du béton, en quelque sorte. Donc, les maisons en bois, par exemple, vont mieux résister à ces séismes-là. Et ensuite, il y a plein de techniques différentes. Hein. Par exemple, à Taïwan, il y a une très grande tour qui fait 500 mètres de haut. Et sur cette tour-là, en fait, donc, qui est située à proximité d'une faille, en fait, ils ont mis une espèce d'énorme balancier qui permettent d'amortir les vibrations qu'on va avoir pendant un séisme. Donc ça, c'est une technique. Après, pour des maisons, ce qu'on fait aussi des fois, c'est qu'on va chaîner la maison, c'est-à-dire qu'on va mettre des chaînes à différentes hauteurs autour de la maison pour essayer de la consolider, en fait, et le fait qu'elle vibre ensemble et qu'il n'y ait pas de désolidarisation des murs pendant le séisme. Ensuite, il y a encore plein d'autres techniques. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a plein de méthodes, en fait, pour essayer de construire des bâtiments qui vont être parasismiques.
Et on peut les prévoir, les séismes ?
Alors non, ça, actuellement, on est incapable de prévoir des séismes. On peut prédire un risque, donc dire, voilà, telle région est dangereuse parce qu'il y a une probabilité d'avoir un séisme dans les 100 années à venir. Par exemple, c'est le cas à Istanbul, on sait que dans les 30 ans, il risque d'y avoir un gros séisme de magnitude à peu près égale à 7. Donc ça, on peut le dire. Le problème en Bretagne, c'est qu'on a très peu de recul sur la question parce que c'est une région qui est peu active. Ce qu'il faut voir, c'est que les séismes qu'on a en Bretagne sont probablement liés en fait, à la convergence qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique. Donc l'Afrique, en quelque sorte, pousse sur l'Europe, mais on est relativement loin de la limite de plaque entre l'Europe et l'Afrique, donc on ressent de manière très modérée, finalement, cette convergence. Donc on accumule des contraintes, on tire cet élastique de manière très douce, et donc ça veut dire que si on a des gros séismes, ils vont avoir lieu de manière très espacée dans le temps, donc par exemple, tous les 10 000 ans ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on n'a jamais... Enfin, en tous les cas, j'en suis pas... au courant, enfin je ne suis pas au courant de ça, mais dans les archives historiques, il n'y a pas pour l'instant de traces de très très gros séismes en Bretagne. Donc c'est difficile de vraiment prédire quelle peut être la magnitude maximum qu'on peut avoir en Bretagne. Et de manière plus générale, c'est de toute façon impossible de prédire un séisme actuellement. On ne peut pas dire, voilà, à telle heure, telle minute, on va avoir tel séisme de telle magnitude.
Souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret. Le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. En l'air, nous ne craindrons pas ni la poussière, ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Danser. Le tigre a faim. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez, au bord du cratère.
C'était La Maison Tellier avec le titre Sur un volcan. Nous sommes de retour en compagnie de Philippe Sterre, géologue à l'université de Rennes. Après avoir parlé des tremblements de terre survenus en Bretagne, évoquons maintenant les différents processus responsables de la modification de la surface de la Terre.
Alors, il y a par exemple la tectonique, je viens d'en parler, donc les séismes qui peuvent déformer cette surface terrestre. Mais vous avez ensuite des processus qu'on appelle de surface, comme l'érosion des rivières, l'érosion des glaciers, les glissements de terrain, qui vont ensuite répondre en quelque sorte à ces mouvements tectoniques. Par exemple, c'est un truc assez idiot, il y a eu un gros séisme en 2008 en Chine, le séisme du Sichuan, il y avait eu plusieurs dizaines de milliers de morts, c'est vraiment très destructeur, magnitude 8.3. Et en fait, les scientifiques ont observé que pendant ce séisme, le déplacement qu'il y a eu, la surrection de roches qui a eu lieu pendant le séisme, elle a été complètement érodée, même plus qu'érodée, par exemple, les glissements de terrain. Donc il y a eu plus de volume de glissements de terrain suite à ce séisme que de surrection, c'est-à-dire de roches qui ont été surélevées. Mmh. Donc vous avez une réponse qui peut être très, très violente et très rapide finalement à ces mouvements tectoniques. Donc actuellement, par exemple, en géomorphologie, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui construit les chaînes de montagnes. Est-ce que c'est les petits séismes qui sont capables justement de mettre, en quelque sorte, de surélever des roches de manière assez modérée, mais qui n'entraînent pas de réponse très intense des processus de surface comme les glissements de terrain? Ou est-ce que c'est les très gros séismes qui, eux, en fait, ont comme conséquence, comme effet secondaire, de déclencher beaucoup d'érosion. Donc il y a plein de questions comme ça actuellement qui émergent en géomorphologie, auxquelles on essaye de répondre par les observations de terrain, par des modélisations qu'on va faire soit avec des ordinateurs, soit en laboratoire. Donc il y a plein de méthodes qu'on essaye d'utiliser pour répondre à ce genre de questions.
Et justement, vous, sur quel point travaillez-vous en géomorphologie ?
Notamment sur le dernier point dont j'ai parlé, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui contrôle ce qu'on appelle le bilan topographique d'un séisme, c'est-à-dire la surrection moins l'érosion. Donc notamment, on travaille avec des collègues, notamment allemands, et on essaye de combiner à la fois des observations de terrain via les images aériennes, de la modélisation numérique, pour essayer de voir comment des paysages répondent à cette activité tectonique soudaine, et aussi un peu de modélisation expérimentale. Donc je travaille notamment là-dessus, et aussi je travaille sur toujours ces interactions entre tectonique et érosion, mais vues dans l'autre sens, c'est-à-dire comment cette érosion de surface peut éventuellement modifier l'activité tectonique à long terme des chaînes de montagnes.
Le poids des roches pourrait avoir une influence sur les séismes ?
Et exactement. En fait, le poids des roches ou le déchargement de ce poids par l'érosion peut avoir une conséquence sur ce qu'on appelle la localisation de la déformation. Donc, où est-ce qu'on va avoir, par exemple, un séisme peut dépendre de où est-ce qu'on érode, où est-ce qu'on dépose des sédiments.
Il y a plusieurs types de séismes ?
Oui, tous les séismes en fait, ont plus ou moins le même mécanisme, mais disons qu'il y a sur une faille, on a des séismes qui peuvent être les séismes les plus importants en termes de magnitude, c'est-à-dire les séismes qui vont rompre l'ensemble de la faille. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des répliques, c'est-à-dire des plus petits séismes qui vont en fait permettre de rééquilibrer en quelque sorte les forces ou les contraintes sur le plan de faille. Et donc, en fait, on a ces deux types de séismes qui sont un peu différents. Et actuellement, en fait, on ne sait pas très bien cette érosion, cette sédimentation, ce qu'elle peut avoir comme conséquence, si c'est plutôt sur les gros séismes ou si c'est plutôt sur ces répliques, sur ces petits séismes.
Comment se passent vos recherches ?
La recherche, c'est un peu aléatoire, on ne sait jamais sur quoi on va vraiment tomber. Donc des fois, en fait, on fait du terrain et on a une nouvelle idée qui nous vient ou une nouvelle observation qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc on va essayer de développer une théorie ou des modèles pour expliquer cela. Et des fois, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit sur un coin de table, on fait quelques calculs, on se rend compte qu'en fait, il y a un mécanisme qu'on ne comprend pas très bien. Où potentiellement il y a des implications assez fortes, donc on se dit « Ah bah, ça vaudrait le coup d'aller voir sur le terrain si on trouve ce genre d'indice. » Donc c'est par les deux en fait. Mais c'est souvent en fait, notamment en sciences de la Terre, c'est souvent un aller-retour finalement entre l'observation et la théorie ou les modèles qui permettent justement de faire avancer les choses. Donc il y a constamment en fait un aller-retour entre ces deux méthodes en fait pour répondre à ces questions.
Et quel type d'outils utilisez-vous lors de vos recherches ?
Alors, on utilise notamment donc, des modèles numériques qui permettent, par exemple, de modéliser comment un paysage évolue au cours du temps. Donc, on va pouvoir, par exemple, regarder comment un glacier peut éroder des chaînes de montagne. On peut aussi voir, avec ce type de modèle, comment une rivière va éroder, comment elle va migrer latéralement. On peut modéliser vraiment des choses très, très fines par rapport à ça. C'est extrêmement réaliste. Si vous regardez le résultat de ces modèles-là, vous avez l'impression de voir des reliefs terrestres. Donc, c'est vraiment très, très joli. Ensuite, on a aussi d'autres types de modèles qu'on appelle des modèles expérimentaux. C'est-à-dire, c'est des modèles en laboratoire où, en fait, on a des boîtes qui sont composées de sable, en quelque sorte, sur lesquelles on va pousser pour essayer de simuler la tectonique. Et au-dessus, on va en quelque sorte faire pleuvoir dessus et regarder comment cette pluie va former des rivières et comment ces rivières, ensuite, vont pouvoir éroder cette surface-là. Et de nouveau, ça donne des résultats qui peuvent être assez jolis. Donc ça, c'est le type de modèle qu'on peut utiliser, qu'on utilise notamment à Rennes. Ensuite, on peut éventuellement rajouter encore plus de complexité, mettre une déformation tectonique très réaliste. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en plus et on peut rentrer dans des degrés de complexité très importants, mais ce n'est pas toujours la chose la plus appropriée à faire. Souvent, le plus simple souvent est le mieux en fait, dans les sciences de la Terre.
Et quelles applications peut-on faire de vos recherches ?
Ça, c'est toujours une question un peu piège quoi, quand vous posez ça à un scientifique. Je pense que ça peut renseigner sur notamment les régions où on connaît très mal la déformation sismique. On connaît très mal le risque potentiel de séisme. Justement, la géomorphologie, dans ces cas-là, peut vraiment renseigner sur le risque potentiel. Donc en Bretagne, par exemple, la géomorphologie, renseigne sur le risque potentiel d'un gros séisme. Donc ça, c'est une implication assez directe et assez forte. Ensuite, on peut aussi, dans des régions qui sont beaucoup plus actives que par exemple la Bretagne, par exemple le Népal, la géomorphologie peut aussi renseigner sur les risques de séisme. Et même actuellement, il y a un assez grand débat pour savoir où est-ce qu'on peut avoir le séisme le plus important au Népal. Il y a deux failles qui sont potentiellement candidates pour générer des gros séismes. Et en fait, la sismologie a tendance à nous dire que c'est plutôt une de ces deux failles qui peut potentiellement créer un gros séisme. Et la géomorphologie nous dit l'inverse. Et donc, en fait, c'est un vrai débat. Et c'est très important de répondre à cette question parce que là, ce n'est pas des séismes de magnitude 4, 5 ou 6. C'est des séismes de magnitude 8, voire potentiellement 9, qui sont extrêmement destructeurs. Donc, dans ces cas-là, c'est important vraiment de mener ce raisonnement jusqu'au bout, pour essayer vraiment de discerner laquelle de ces deux failles est celle qui va pouvoir casser, par exemple.
Où vous vous déplacez sur le terrain ?
Alors, où est-ce que je me déplace ? J'essaye justement d'aller dans les régions où ça bouge beaucoup, donc je vais rarement en Bretagne, en fait. récemment, j'ai été, par exemple, à l'automne, à Taïwan, qui est une région très, très active, où il y a vraiment plein de séismes, l'érosion est très rapide, enfin, c'est terrible pour les habitants là-bas, mais pour les géologues comme moi, c'est génial en fait comme région. Donc on va là-bas. Là actuellement, j'ai un collègue qui est en Nouvelle-Zélande, c'est aussi pareil, très actif, donc c'est très intéressant à étudier. Donc j'y vais, on va dire, à peu près une fois par an sur le terrain. Donc on va regarder les choses, on ramène certains cailloux pour faire des mesures dessus, par exemple dater certaines roches et ainsi de suite, faire des mesures de position de rivière, de position de marqueurs géomorphologiques et ainsi de suite. Donc on fait plein de mesures différentes sur le terrain qu'on essaye ensuite d'analyser en laboratoire.
Oui, qu'est-ce que vous observez sur le terrain ? Est-ce que vous avez assez de recul justement pour voir un séisme à notre dimension ou faut prendre...
Alors c'est le séisme en tant que tel, c'est assez dur en fait à localiser ou à mettre le doigt dessus en fait. Donc il y a des gens qui font ça, hein, qu'on appelle des paléosismologues. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le terrain, ils creusent des tranchées et ils regardent s'ils voient des décalages dans les niveaux de roche en quelque sorte. Donc ça, c'est pas ce que je fais moi. En fait, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va de nouveau sur le terrain, mais on fait d'autres types de mesures, notamment des mesures géophysiques. On va essayer de voir si les roches se déplacent les unes par rapport aux autres sur plusieurs années, en installant par exemple des GPS. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va d'année en année faire des mesures de la surface de la Terre, voir s'il y a une évolution de cette surface au cours du temps. C'est ce qu'on appelle notamment des mesures avec des LIDAR, donc c'est des lasers qui permettent de faire des mesures très très précises avec une densité de points très importante, par exemple un point tous les centimètres ou même tous les millimètres. Et donc d'année en année, si on voit par exemple que la surface a bougé, ça nous donne un indice sur soit l'érosion, la sédimentation ou potentiellement aussi l'activité tectonique. Donc on peut faire ce genre de mesures, on peut aussi essayer de dater les roches qui sont à la surface de la Terre, voir combien de temps elles ont mis par exemple pour se surélever à partir d'un niveau d'une certaine profondeur, par exemple 1 km de profondeur. Donc on a des marqueurs de ce mouvement de remontée là, donc ça nous permet d'avoir un recul géologique sur la question justement de l'activité de ces failles et de la potentialité des séismes. Donc on fait ça notamment à Taïwan aussi, on fait ça en Nouvelle-Zélande et on fait ça dans toutes les régions qui sont un peu actives du monde.
Et comment vous arrivez à dater des roches ?
Alors, j'en suis pas un spécialiste, hein, à vrai dire, mais on a différentes mesures, notamment des mesures isotopiques. On s'appelle des systèmes thermochronologiques. C'est des systèmes qui vont donner une information sur une température, ce qu'on appelle de fermeture de ce système isotopique-là. C'est-à-dire que la roche, quand elle va par exemple passer à travers... Donc vous savez qu'il fait plus chaud quand on est en profondeur que quand on est à la surface de la Terre. Par exemple, à 1 km de profondeur, il fait à peu près 30 degrés. Et donc à 30 degrés, vous allez avoir certains systèmes isotopiques qui vont se fermer, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'évoluer. Et donc, si on est capable de détecter en quelque sorte à quel moment, de dater à quel moment a eu lieu cette fermeture de ce système isotopique, on peut remonter à une date de passage de cette température de 30 degrés. Et vu qu'on sait que cette roche maintenant est à la surface, et ben la différence entre les deux d'élévation, donc par exemple 1 km et le temps, nous donne une vitesse de surélection. Donc on sait si ça bouge rapidement ou si ça bouge lentement grâce à ces mesures-là en fait.
Et si vous vous déplacez à Taïwan ou en Nouvelle-Zélande, pourquoi il y a beaucoup de séismes dans ces régions-là ?
Alors c'est parce qu'en fait, dans ces régions-là, on est à la frontière de plaques tectoniques qui bougent rapidement les unes par rapport aux autres. Donc les plaques tectoniques, il faut voir ça comme un puzzle à la surface de la Terre avec des pièces d'un puzzle qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Et quand vous avez deux plaques qui se rencontrent, donc vous avez souvent des failles qui vont être engendrées par ce mouvement de convergence. C'est le cas à Taïwan, c'est le cas en Nouvelle-Zélande. Et en fait, vous avez ces deux plaques qui frottent très fortement l'une par rapport à l'autre, parce qu'elles sont poussées par ces plaques tectoniques. Et ce mouvement tectonique à grande échelle, en fait, il est très difficilement freinable. Il dépend notamment de forces qui ont lieu dans le manteau terrestre. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et donc en fait, ce qu'on voit à la surface, c'est ces séismes qui sont finalement la manifestation de cette friction qu'on a entre ces plaques tectoniques-là.
Et pourquoi le globe, justement, est divisé en plaques tectoniques ?
Alors, pourquoi est-ce qu'il est divisé en plaques tectoniques ? C'est assez compliqué à expliquer, enfin, peut-être pas tant que ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, en fait, on a un mouvement dans le manteau terrestre. Donc, le manteau terrestre, c'est cette portion de roche qui est située entre 30 km à peu près 3000 km de profondeur. Donc, c'est quelque chose de très, très grand. Et dans ce manteau terrestre, en fait, vous avez une différence de température entre la partie profonde et la partie superficielle. Et cette différence de température, un peu comme dans une casserole qui est à ébullition, crée des mouvements de convection. Donc, vous avez des roches qui sont à la base qui vont avoir tendance à remonter, des roches qui sont en surface qui vont avoir tendance à descendre. Et cette espèce de tapis roulant, en fait, que représente le manteau, lui entraîne les roches qui sont en surface dans son mouvement-là. Et donc, en fait, quand vous avez deux tapis roulants qui viennent l'un contre l'autre, en fait, vous avez donc une convergence de plaques. Et inversement, quand vous avez deux tapis roulants qui vont dans la direction opposée, vous avez une extension, donc une divergence de plaques tectoniques. Et donc, c'est ça, en fait, qui est la source de ces plaques tectoniques qu'on a à la surface de la Terre.
Donc, en fait, c'est la convection du manteau qui régit le renouvellement de
qui la régit surface le mouvement des plaques tectoniques et qui régit aussi la position de ces plaques tectoniques-là.
Cette question change un peu de sujet, mais comment se passe la modélisation ?
Alors, les modèles, notamment numériques, ce qu'on utilise d'abord, c'est qu'on a des observations qui nous renseignent sur la physique des processus, quelle est leur dynamique. Donc, on arrive à en déduire des équations. Et ces équations-là, en fait, après, on utilise des langages informatiques qui vont nous permettre de, justement, modéliser ces processus sur des grandes surfaces, sur des échelles de temps assez longues. Donc, ça demande notamment d'avoir des compétences en physique, et des compétences en modélisation, donc c'est-à-dire en programmation informatique, en fait.
Oui, c'est assez pluridisciplinaire, parce que vous faites un peu de géophysique.
Ouais, en fait, les sciences de la Terre sont vraiment un domaine scientifique qui a l'interface entre plusieurs disciplines. Hein. Par exemple, c'est l'interface un peu avec la géographie, c'est l'interface avec vraiment la géologie purement d'observation, c'est l'interface aussi avec la biologie, mais... De l'autre côté, en fait, on a aussi les physiciens qui peuvent nous aider, on a aussi les informaticiens, les numériciens qui peuvent nous renseigner sur ce genre de processus, et aussi les chimistes. Donc c'est vraiment, en fait, une discipline qui fait intervenir plein de méthodes, plein de types d'observations, tous ensemble, et c'est ça, en fait, qui permet de faire avancer les sciences de la Terre actuellement.
Le Labomatique touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission ainsi que d'autres informations sur les séismes bretons sur radiocampusrennes.fr. On se retrouve nous la prochaine fois pour parler cristallographie. D'ici là, portez-vous bien et demeurez curieux.